toutes et à tous, c'est Yann sur Canal B pour l'émission Crème de la Crème, une émission sans beaucoup de voix encore aujourd'hui, mais qui vous permettra tout de même de tout savoir sur les spectacles Discussion avec DS et The Shadow Who Spray The Hunter Becomes, deux spectacles qu'Isabelle a pu voir pendant le festival TNB. Puis avant ça, on va discuter avec trois des membres du groupe Downtown Cuckoo qui étaient dans les studios vendredi, juste la veille de leur concert que vous avez peut-être vu au Marquis de Sade. On parle avec trois des musiciens du groupe juste après que vous aurez entendu ce titre El Dom. Bonne émission. Crème de la crème aujourd'hui, la crème de la crème de Downtown Cuckoo. On est avec trois des membres du groupe qui sort son nouvel album. Non, c'est pas une blague, il y a un nouvel album de Downtown Cuckoo, il s'appelle No Literature. Et c'est à peu près ça que ça veut dire, No Literature. C'est pas des blagues. On est avec qui aujourd'hui?
Alors moi je suis Hervé, je suis le bassiste du groupe.
Stéphane, batteur.
Yann, guitariste.
Bon, je fais comme si je vous connaissais pas, mais c'est pas vrai. Je vous connais un petit peu quand même, parce que d'entendre Coucou, c'est pas non plus un groupe qui est né la semaine dernière pour rendre hommage à The Fall et Idols et les Fontaines d'ici. Parce que même si The Fall est un groupe qui existe depuis bien longtemps, certains groupes d'aujourd'hui s'en inspirent beaucoup. Vous, c'est pas tout récent la découverte du groupe, j'imagine. Et c'est pas que ça qui vous inspire non plus. Mais ça a commencé quand? Vous vous rappelez précisément d'entendre Coucou? C'était au 20e siècle ou au 21e siècle?
Ouais, ça a démarré en 2007, quelque chose comme ça. Première maquette avec Anthony. Et puis en 2008, on a vraiment formé le groupe avec Hervé et Stéphane.
Bon, là, je vois déjà des regards un peu interloqués. T'es sûr que c'est ça, les dates? Bon,
environ.
Environ, ouais.
On se souvient de vous pour notamment le fait que vous aviez joué au Transmusical en 2009. C'était au Parc Expo Hall numéro 3. Un album était sorti à peu près à ce moment-là ou...
Ouais, l'album est sorti en 2009 avant les Trans. Et en fait, on avait passé une audition en juillet avec Monsieur Brossard qui nous avait dit qu'on jouait au Trans, qui nous ferait une petite place. Et on s'est retrouvé quand même à 2h30-3h Hall 3 en plein boom le samedi soir. Donc pour nous, c'était un gros truc. Et on a fait la tournée des Trans aussi juste avant, donc c'était chouette. Et, et après on a fait quelques dates, donc c'était une année assez fructueuse, on va dire l'année fructueuse d'Anton Coucou.
Ouais, parce qu'on dit en général aux jeunes groupes, et il y en a peut-être quelques-uns qui nous écoutent juste avant les Trans, comme ça vous verrez, 3 ans après vous jouerez à Wembley, 6 ans après à Sydney, bon voilà, et c'est toujours de plus en plus gros comme ça. Bon, ça n'a pas été le cas, et c'est pas forcément le cas pour la plupart des groupes qui jouent aux Trans en fait.
Ouais, c'est clairement pas le cas pour nous en tout cas. Pas de Wembley, pas de Zénith, que dalle.
Si je parlais de The Fall tout à l'heure, et puis j'évoquais aussi certains groupes contemporains qui sont un peu dans le sillage de groupes post-punk de la fin des années 70, début 80, surtout de Gang of Four, de Wire, de The Fall, un peu de Joy Division aussi. Est-ce que ces groupes-là, c'est des groupes que vous avez écoutés consciemment en vous disant, tiens, on fera un jour un mélange de tout ça, ou finalement c'est la personnalité de chacun des musiciens qui fait que dans ton coucou, c'est ce que c'est aujourd'hui?
Je pense que c'est un peu inconscient. Après, il y a la diction d'Anto qui est assez particulière, et il a vécu à Manchester ou pas loin de
Alors,
Manchester.
Alors, tu parles de l'addiction comme la drogue ou la façon de parler?
Les deux. Et en fait, non, mais bon, c'est un truc un petit peu particulier au niveau, mais lui a dû être influencé vraiment, je pense, au niveau des chanteurs anglais. Et puis nous, on a différentes influences et ça a donné ce que ça donne. Après, évidemment, il y a Yann, par exemple, le week-end dernier, était dans le salon vers 2h du matin. Il était très, très, très féru de The Fall, là. Il dansait un peu torse nu. Donc ouais, on aime bien ça, mais pas que.
L'idée, j'ai l'impression, quand on écoute d'entendre Coucou, c'est que ça doit être un peu sec, mais que ça danse quand même en même temps. C'est un petit peu compliqué d'atteindre cette équipe libre-là, non?
Je sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu on n'a pas l'intention de faire du rock'n'roll pur et dur. C'est vrai qu'on est là pour s'amuser, c'est aussi ce qui nous fait durer, je pense. C'est qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et il y a une partie un peu, ouais, je pense, un peu fun, un peu dansante. Au départ, souvent, les morceaux sont maquettés basse et voix, parce qu'Anthony, il a composé beaucoup de morceaux au départ à la basse, et puis il a chanté par-dessus. Et c'est peut-être aussi le fait que la basse soit au départ au centre des morceaux qui donne un peu ce côté un peu groovy parfois.
Ce qu'on écoutait à l'instant, juste pour débuter la discussion avec vous trois, c'était le titre Elle d'Homme sur l'album No Literature. Elle a une histoire un peu longue aussi, cette chanson. Elle est ancienne ou tu peux nous en parler?
Ouais, la chanson en tant que telle, les textes, c'est Anthony qui les a écrits au moment de la composition en groupe. Mais oui, en fait, c'est l'issue. À l'origine, c'était une maquette que j'avais fait avec Dom, justement, un gars qui s'appelle Dom du Minil.
Qui est responsable de la pochette du disque.
Exactement, voilà. Et puis, qui n'a pas abouti à quoi que ce soit, donc on l'a récupéré gentiment, et puis on a arrangé tout ça.
Rien ne se crée, rien ne se perd, quoi. Tout se transforme, c'est ça?
Exact.
On entendait sur cette chanson peut-être une orchestration un peu plus élaborée, la présence des chœurs notamment, sur cette chanson-là. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez finalisée comme ça, cette chanson?
En fait, on a enregistré à Kerouac en 2016, je crois. Et en fait, on s'est dit que y avait la voix sur le refrain. On s'est dit pourquoi pas mettre un peu de poésie féminine, entre guillemets, d'avoir quelque chose qui relève un peu le chant. Et du coup, on a demandé à Isa des Sortinaux, Laureline Prudhomme de Fracture, Dude, etc. Et Valérie, qui chante dans Michel, voilà. Et on leur a demandé si elles pouvaient venir. Donc elles ont fait en trio à Kerouac. Elles sont venues sur deux morceaux, sur El Mambo et sur celui-là.
Tu parles de Kerouac, c'est peut-être un studio qui n'est pas si connu de la part des non-musiciens. Ça se trouve dans les Côtes d'Armor, c'est absolument dingue. Sans doute le rêve de pas mal de musiciens. Racontez-nous votre rêve à vous, là-bas.
En fait, on a enregistré la moitié de l'album à Kerouac, la première moitié. Enfin, les premières prises ont
été. Donc Stéphane n'était pas dans le rêve, lui, en fait.
Et voilà, donc on a fait 4 morceaux sur les 8 à Kerouac. Et puis les autres à Balloon Farm, à Rennes.
Raconte-nous le cauchemar de Balloon Farm alors. Non, raconte-nous ce rêve-là, parce que Balloon Farm, c'est un studio d'amis à vous, hein, où vous avez enregistré depuis le début sans doute, et vous êtes comme à la maison, donc peut-être c'était assez confortable aussi.
C'est exactement ça, parce qu'à Balloon Farm, nous en fait, on est vraiment à l'aise avec Vincent, avec Gilles Morillon, etc., qui ont fait les prises et les captations et le mix. Et là, à Kerouac, on était un peu déstabilisés par... Voilà, c'était pas forcément le type de... Enfin, l'endroit est super bien, mais après, au niveau des mix et tout ça, c'était pas forcément exactement les mêmes repères, on va dire.
Voilà, on s'en sort avec beaucoup de diplomatie, je trouve, du côté de Downtown Cuckoo. On est avec 3 des membres du groupe, je vous le rappelle. L'un est bassiste, l'autre est batteur, le troisième est guitariste. Est-ce que parfois vous avez envie de changer les instruments un petit peu? Tu disais, Yann, que Anthony a pu composer certains morceaux à la basse. Il joue du clavier aussi, en plus de chanter. Comment on peut trouver d'autres combinaisons musicales?
Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pratique pas mal. C'est vrai qu'on a eu la chance d'intégrer un cinquième Downtown Cuckoo il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques...
Ah bah oui, mais
c'est à notre échelle, il y a à peu près 4-5 ans. Quoi.
Donc ça fait 3 mois pour un groupe normal. Il s'appelle comment?
C'est Cyril qui fait de la guitare et du clavier. Et donc qui a apporté un peu de matière sur les morceaux. Et puis sinon, on a... Moi, je passe de temps en temps à la guitare. Anthony, comme je disais, c'est un bassiste à l'origine, donc il prend. Anthony, qui est donc le chanteur, il prend la basse à l'occasion. Voire il chante en même temps. Et puis, je sais qu'Yann, en ce moment, rêve de décoincer Stéphane son fauteuil de batterie, puisqu'il est en train de prendre des cours assidûment. Donc peut-être qu'on aura un nouveau batteur.
Et moi, j'ai envie de faire du clavier.
Les chaises musicales, c'est les Downtown Cuckoo. Et pour le 3e album, dans 7 ans, à peu près, tout aura changé. Mais pour l'instant, on reste sur l'album No Literature, avec cette pochette où des bagnoles nous foncent dessus, comme ça. Il faut faire gaffe pour les éviter. On parlera peut-être un petit peu des textes, si Anthony vous a un peu raconter de quoi il parle, parce que c'est lui qui écrit tout, je crois.
Oui, c'est Anthony qui compose.
Mais tout de même, cette chanson de John qu'on écoute maintenant, elle a un rapport avec quoi?
Alors John, c'est une chanson qui est un peu particulière dans l'album, parce qu'elle parle de l'actualité, donc c'est la seule, je pense, hein, qui parle de choses un peu sérieuses, à savoir des migrants, donc les textes sont assez parlants. What about the strangers? You feel concerned at all? Is it cause for worry? The ones to cater for? What about the strangers? You feel concerned at all? Is it cause for worry? The ones to cater for? Couldn't care less about so many casualties. Very much alone. River.
l'instant, c'était le titre John par Downtown Cuckoo. Trois des membres sont dans les studios aujourd'hui. Alors, c'est au moment où je vous diffuse l'interview, bah c'est déjà passé puisque vous étiez là en fin de semaine dernière, juste avant le concert pendant le festival Culture Barbare. Là, c'était l'amical Jean Fass qui vous invitait, le plus ou moins célèbre. Il y a John Peel et puis il y a Jean Fass. Vous avez compris? Oui, vous avez compris. Sinon, cherchez à Don Lurie, vous trouverez peut-être aussi. Vous avez des liens assez serrés avec la scène musicale rennaise, même si vous n'êtes plus de moins en moins rennais, peut-être, vous les dames dans le coucou, à tel point que pour vous réunir dans la même pièce, c'est parfois un peu compliqué. Donc, imaginez dans la même salle de répète, dans le même studio d'enregistrement, voire la même salle de concert. Bon, ça complique les choses. Qu'est-ce qu'il y a qui vous unit justement avec notamment Jean Fass, avec Don Lurie, avec le studio Balloon Farm?
Ils nous ont, Kérosène et Cafioul nous ont bien épaulés sur le premier album. Ils nous ont fait jouer. Balloon Farm, on en a parlé, c'est un peu la famille rennaise où on fait toute une répète, etc. Et le fait qu'on soit un peu, que ce soit dispatché un peu au niveau géographique, Yann est parti à Lorient, Anto à Nantes, VV à Paris. Du coup, c'était compliqué. C'est un peu pour ça qu'il y a une latence au niveau de la création de l'album. Parce que ça fait, c'était compliqué de se voir en répète, c'était compliqué de faire des morceaux, tout simplement. Et puis là, on a retrouvé un espèce d'engouement il y a un an ou deux. Hein, il y a eu des mariages, il y a eu des divorces, il y a eu des enfants, il y a eu plein de choses. Et du coup, là, on s'est retrouvé, puis on était content d'être ensemble. Et puis voilà, on est aussi des potes. Et puis voilà, c'est un peu ça le lien premier.
Donc c'est la version 2.0 de Downtown Cuckoo, prête à en découdre et à être c'est une nouvelle vie en fait pour le groupe vraiment ou c'est la suite quand même de l'existence depuis 2007.
Je sais pas si c'est une nouvelle vie, mais en tout cas il y a une véritable envie avec ce nouvel album là de refaire un peu de concert, de refaire de la scène, de remettre un peu d'intensité, un peu plus de, enfin c'est pas compliqué vu que ça a été quand même très distendu ces derniers temps, mais voilà, de se retrouver plus souvent, d'aller plus sur scène aussi. Je pense que c'est une envie qui est partagée par les membres du groupe.
Ouais, de faire des nouveaux morceaux. Il y a d'ailleurs un qui est pas sur l'album puisqu'on l'a enregistré, enfin, on l'a créé après l'enregistrement. Donc il y a la nouveauté.
Un album qui sort en version CD, oui, mais surtout en version vinyle. Il existe aussi. On peut se l'acheter en fichier si on a envie d'aller l'acheter sur Bandcamp un par un comme ça.
Ouais, alors notre label Limbo, là, Guillaume le couplier qui est l'a mis en version numérique sur plein de plateformes. Sur Bandcamp, il est achetable en version numérique, c'est des vinyles. Hein, ben alors, je crois que comme on n'est pas terrible en informatique, je crois qu'il y a deux Downtown Cuckoo, deux Bandcamp, donc faut pas se tromper, faut prendre le récent et pas l'ancien.
Le deux. Voilà.
On n'arrive pas à supprimer l'autre, on ne sait pas comment on supprime un fichier Bandcamp. Donc voilà, s'il y a des informaticiens parmi vous.
Cet album No Literature, j'ai l'impression qu'il veut un petit peu remettre les choses à leur place comme ça. No Literature, c'est pas de la littérature, on y va, on fonce. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Anthony? Vous l'a dit aussi ça ou quoi?
Ah non, en fait, le titre de l'album, on y a cogité, mais on ne trouvait pas. Et puis voilà, c'était son idée de prendre le titre d'un des morceaux en fait. Tout simplement.
D'accord. Si c'est vrai que vous êtes un des groupes à la plus longue vie et qui a fait peut-être le moins d'enregistrements, c'est pas très grave. On sent que c'est quand même le même groupe finalement. On sent que Downtown Cuckoo a évolué, a grandi, a changé forcément, mais c'est le même Downtown Cuckoo quand même, malgré l'arrivée d'un nouveau musicien dans le groupe. Est-ce que c'est parce que voilà, vous les avez tous en tête, les morceaux qui vont sortir au fur et à mesure comme ça, ou il y a des choses qui pourraient rentrer dans la composition d'un titre de Downtown Cuckoo auquel vous n'avez pas pensé encore? Ils se fabriquent comment les morceaux? Tu disais Yann qui écrit et qui n'a pas
ouais,
pu figurer sur
bien
l'album.
Souvent c'est Anthony qui arrive effectivement avec des idées de basse et puis un texte ou un chant en tout cas. Sur le dernier album c'était un peu plus variable la façon composée, j'ai amené aussi des idées de mélodie à la guitare au départ, donc il y a des morceaux qu'on a composés tous ensemble, c'est un peu plus divers. Voilà. Donc là, si on arrive à se voir plus souvent, je pense qu'on va continuer sur cette voie-là, mais je sais qu'Anthony a aussi un peu de matos en réserve, donc hâte de travailler dessus.
Ouais, et puis là, on a, je pense, une diversité de morceaux qui est assez, qui nous paraît intéressante. Où il y a, ça peut être des trucs qui font un peu penser à des musiques de films et des choses plus rugueuses. plus rugueuse et plus dure. Mais voilà, on est dans des trucs, on se pose pas trop de questions en fait. Il y a des trucs qui font un peu samba, un peu mambo, un peu et des morceaux qui font un peu plus post-punk. Voilà, il y a pas vraiment de réflexion, de ligne directrice en fait. C'est on répète, on se dit tiens ça est sympa, ça sonne comme ça, ça nous plaît, puis voilà quoi.
Donc vous êtes prêt à faire plusieurs sortes de best-of, quoi, le best-of mambo, le best-of samba,
l'Oster question,
l'Oster tam coucous. Bon, je ne sais pas si ça existera un jour. En tout cas, moi, je suis retourné voir le site des Transmusicales, hein, qui garde en mémoire toutes les choses qui ont été dites, écrites sur les groupes qui ont joué lors du festival. Là, c'était bien du côté de la Carène, du côté de du Feuzion. Vous avez pu faire la tournée des Trans, mais on disait de vous que vous, ponctuellement, pouviez jouer du dub, du punk. On en a parlé entre nous comme ça en antenne. Bon, évidemment, non, il n'y a pas de version de plate extended avec vachement de reverb sur vos titres.
Pas encore.
Mais ça, ça pourrait être imaginable. Ah bah
c'est une idée que tu nous donnes, on va y réfléchir.
N'ai pas pensé encore à qui les confier pour les remixer.
On pensait à Lee Scratch, mais malheureusement, il nous fait défaut aujourd'hui.
Là, l'époque nous permet d'entendre pas mal de groupes ces temps-ci qui ont un peu les mêmes influences que vous, qui peut-être sont plus jeunes, mais qu'importe, ils ont les mêmes envies de faire la musique que vous et tout va très bien. Mais des groupes comme Chalk, par exemple, qui sont irlandais, qui vont jouer au Transmusical, des groupes comme, je sais pas, Fontaine's DC, des Irlandais, encore une fois, tiens, des groupes comme Idols, aujourd'hui, c'est des choses que vous écoutez, vous vous dites, ah, les petits genoux, là, ça nous fait pas si marrer que ça, parce que nous aussi, on a écouté la version originale, donc on.
Non, pas du tout, mais en tout cas, je parle pour moi, personnellement, j'aime beaucoup Idols, Fontaine's DC, Viagra Boy. Tout ça, c'est des groupes que j'aime énormément. Donc,
ouais, moi, c'est des groupes que j'écoute régulièrement aussi. Ouais, y a pas de...
ouais, puis c'est costaud. Enfin, moi, j'ai vu Idols en Antipode, c'était costaud hein, sur scène. Ça tient vraiment la marée. Quoi. On rigole pas quand on les voit, on se dit pas, tiens, les petits jeunes. Non, 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 pas du tout.
Et les Viagra Boys, par exemple, quand ils ne sont pas au Festival de la Route du Rock, pourquoi on n'appelle pas Downtown Coucou ?
Vous avez ça, c'est... Ouais, c'est une bonne question.
Peut-être ils n'ont pas le numéro, je ne sais pas moi.
Si, si.
Je
ne
sais pas si les Rennais sont trop à l'honneur à la Route du Rhum.
Bon, j'ai déjà entendu dire ça. Je pense que c'est peut-être pas qu'une théorie. On va peut-être aller investiguer un petit peu plus, un peu plus donc. On l'a dit, il sort en vinyle ce disque. Ça, c'était vraiment absolument nécessaire. Vous vouliez le ranger à côté de vos vinyles à vous, dans vos collègues respectifs. Ou c'était possible. Alors oui, vous l'avez fait.
Alors, on tient à remercier quand même Guillaume parce qu'on savait pas trop si on le sortait en vinyle ou quoi. Et Guillaume, le couplier de Limbo Disc, a dit ouais, moi je mets un billet et puis on fait le pressage pour sortir en vinyle. Donc chouette, nous ça nous voilà, ça a tranché la question.
Bon, on avait vraiment envie aussi de pas faire qu'une sortie numérique. Et puis c'est vrai que le support vinyle, il fait, enfin moi il m'a fait rêver. On a tous. C'est vrai qu'on a tous des platines et puis on écoute tous les disques en vinyle à la maison. Et c'était vraiment chouette de pouvoir le faire.
On va terminer la discussion avec les Darentons de Coucou. Puis, ce qu'il faut que je vous dise la vérité, ils ont une répète avant le concert de samedi. Donc voilà, je vais vous laisser pour aller la faire. J'espère que quand je diffuserai, c'est-à-dire cette semaine, le concert se sera bien passé du côté du Marquis de Sade. Là, pour terminer, on va écouter un extrait, le morceau qui donne son nom à l'album, No Literature. Pour terminer, vraiment, un groupe que vous écoutez beaucoup en ce moment et dont vous aimeriez bien faire la première partie, chacun d'entre vous. Je vois Yann qui se concentre, Stéphane qui bouge la tête.
Bon, en toute simplicité, moi, LCD Sound System, si je cherche une première partie, ouais. Tranquille, on est là.
Moi, je serais pas contre YouTube.
Alors ça, non, ça c'est faux, je pense.
On l'espère.
Même YouTube en 79, même pas en fait, peut-être. Si.
Mieux en 80, ouais.
Et Queen of the Stone Age, bien sûr.
Ah ouais. Ça, c'est dangereux quand même. Bon, on verra ce que vous pourrez faire dans les 10 ans à venir. Moi, je ne promets rien. J'espère que le groupe sera encore présent. Et comme apparemment, vous avez pas mal d'autres morceaux dans les stocks comme ça à venir, on les attend de pied ferme. On écoute No Literature. Ça sort donc l'album de Downtown Coucou en CD, en vinyle. C'est aussi sur les plateformes. C'est grâce à Limbo Disc. Merci à eux. Merci à vous. Et on écoute
merci
donc ce
toi,
titre
Yann.
No Literature. Et la bise à vos amis qui ne sont pas là et qui seront avec vous dans la répète tout à l'heure.
On le fera.
Et au concert samedi.
Ça marche.
Et à bientôt.
Salut.
Et salut. Salut.
look at you. What if I'm in the wonders? Ooh, look at you. Back in the wonders. Ooh, only look at you. What if I'm in the wonders?
C'était le titre No Literature qui donne son nom à l'album du groupe Downtown Cuckoo. Ils étaient nos invités aujourd'hui dans Crème de la Crème. Dans la page culture de Crème de la Crème, aujourd'hui, nous initions une série de deux émissions qui seront consacrées au retour sur le festival TNB 2023 que tu as pu faire en quelques spectacles. Isabelle, tu n'as pas vu toute la programmation. Bonjour, en tout
Bonjour.
Cas. Quelques spectacles, notamment ceux dont tu nous parleras aujourd'hui, The Shadows Pray The Hunter Becomes, du Back to Back Theater d'Australie, et puis la discussion avec DS. DS, pas pour une voiture de chez Citroën, non, pour l'icône Delphine Seyrig, par Raphaël Rousseau.
Déesse, mais pas la déesse non plus dans le sens de la mythologie. Il ne s'agit pas ici de mettre Delphine Seyrig sur un piédestal, mais on en reparlera tout à l'heure puisqu'on commence avec The Shadow Who Spray The Hunter Becomes, un spectacle, tu l'as dit, de la compagnie australienne Back to Back Theater, mis en scène par Bruce Gladwin. Cette compagnie a pour spécificité de mettre en scène des comédiens et des comédiennes en situation de handicap. Un principe d'expression qu'on retrouve aussi en France avec, par exemple, la compagnie L'Oiseau-Mouche. Back to Back Theater présentait pour la première fois en France ce spectacle. Cette année, vous l'avez peut-être remarqué, le festival TNB a mis la création adaptée en avant avec plusieurs propositions artistiques, The Shadow bien sûr, mais aussi par exemple Vignette, ou un spectacle des chorégraphes Bernardo Montet, Volmir Cordero et Maggie Marin, interprété par la compagnie Catalyse. Et puis pour clôturer le spectacle, c'était le groupe Astéréotypi qui donnait un concert à l'Ubu. Alors, la mise en scène de The Shadow Who Spray The Hunter Becomes est une mise en scène très économe, avec un plateau quasi nu. Les trois comédiens mettent en place le décor à vue. On a l'impression d'être dans une salle municipale. Une réunion publique va se tenir. Ils installent au fur et à mesure les chaises, une tribune, des marques de placement au sol. Le fil narratif est donc très ténu. La fiction d'une réunion publique, on l'installe, elle se déroule. Et on range. Alors de quoi est-il question ? Eh bien cette réunion publique a pour enjeu une réflexion sur l'intelligence artificielle. Et si elle prenait le contrôle ? Et si les humains devenaient tous déficients devant une intelligence supérieure et toute puissante ? Trois comédiens, Simon Laherty, Sarah Mainwaring et Scott Price, nous tiennent en haleine pendant une heure environ. Le spectacle est en anglais surtitré. Le spectacle est en anglais surtitré, anglais et français. Il se déroule comme une conversation entre les comédiens abordant les thèmes de la sexualité, de ce que c'est d'être déficient, de la place des femmes, de la pédophilie et bien d'autres thèmes. Toutes ces questions en lien avec la réunion qui va avoir lieu. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Comment on va leur parler ? Le leur étant bien sûr les gens du public qui sont venus assister à cette réunion publique. Alors c'est un objet théâtral percutant. En général, on attend des comédiens qu'ils jouent un rôle, qu'ils portent un masque. Et ici, s'il y a bien une fiction, eh bien ils sont eux-mêmes. Ils s'appellent Simon, Sarah et Scott. Ils discourent, revendiquent, analysent. On pourrait parler ici, je crois, d'artivistes, c'est-à-dire des artistes, mais qui sont là pour porter un propos, un engagement très fort. Et évidemment, ce propos et cet engagement très fort, c'est autour du handicap et de la vision que l'on a du handicap. Donc il y a une adresse au public très intéressante et quasi constante qui l'amène à s'interroger sur son propre regard sur le handicap, à savoir la marginalisation, le rôle des institutions défaillantes, voire maltraitantes, que ce soit l'école ou le monde du travail, et puis le regard sur l'autre, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce spectacle.
Vous l'aurez reconnu, le plus petit de la fratrie Jackson, des frères et des sœurs Jackson, c'était le titre Pretty Young Thing. Tu peux nous expliquer, je pense Isabelle, pourquoi tu as voulu le garder de ce spectacle que tu as pu voir, parce que oui, c'est un extrait de la bande-son du spectacle.
C'est le morceau qui nous permet de quitter la salle, en fait, et si il m'a tellement interpellée, c'est parce que dans le dialogue de fin du spectacle, il y a une question de Sarah qui demande à Scott, parce qu'ils ont parlé de pédophilie, et comment sous les hommes ordinaires se cachent parfois des monstres, à mettre en lien avec notre propre regard sur les personnes porteuses de handicap, bien sûr, puisque c'est toujours ce fil rouge là qu'ils suivent. Eh bien, on pose la question de Michael Jackson, puisque on connaît sa pédophilie, en fait. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Michael Jackson était un pédophile. Et donc, Sarah demande à Scott, mais aujourd'hui, tu continuerais à écouter Michael Jackson? Et Scott répond « probablement ». Et puis ensuite, le spectacle se termine. Et quand on se lève et qu'on quitte la salle, au début, on ne reconnaît pas tout de suite, on n'entend pas bien, puisque de toute façon, la musique passe dans le brouhaha. Mais c'est bien Michael Jackson qu'on est en train d'écouter. Et qui donc nous revient comme un boomerang sur ce questionnement.
Spectacle, donc tu le disais, percutant, plutôt réussi.
Ouais, quand même. Ouais.
De la part du Back to Back Theater, avec donc The Shadow Who Spray, The Hunter Becomes, vu au festival TNB 2023. Tu continues à nous parler du festival avec cette fois le spectacle Discussion avec DS,
oui.
Pour Delphine Seyrig.
Voilà, Delphine Seyrig. Et c'est un texte et une mise en scène, on le disait tout à l'heure, de Raphaël Rousseau. Alors le spectacle commence par un beau paradoxe au sens esthétique du terme. L'absence au plateau de la comédienne et la présence très forte de celle qui est morte, celle qui n'est pas là, Delphine Seyrig. La scénographie convoque la mémoire. Au sol, une vingtaine de portraits de Delphine Seyrig. Devant chaque portrait sont allumées plusieurs bougies à LED. Il y a aussi une malle de spectacle, Flycase, je le précise parce que Raphaël Rousseau en parlera plus tard en interview. Sur cette malle, il y a un gong, encore des portraits et des bougies. Tout cela forme un clair-obscur très beau, presque solennel. C'est un hôtel à Delphine Seyrig, c'est un lien déjà tissé. Mais on n'est pas non plus dans la géographie. Très vite arrive la présence pleine d'humour de la comédienne Raphaël Rousseau, sans qu'on l'ait encore vue au plateau. On la lit d'abord. Sur un grand écran en fond de scène apparaissent des phrases qui nous sont adressées à nous, le public. Elle nous remercie d'être là, nous demande de l'applaudir un peu car elle a le trac, on sourit. Et puis on l'entend, un long message vocal adressé à Delphine Seyrig. Elle lui a téléphoné et lui laisse un message. Essoufflée, la comédienne marche dans Paris et donc parle à Delphine Seyrig. Ce message, je trouve, dit en partie les enjeux du spectacle. On écoute tout de suite un extrait où l'on sent la jeune femme tendue, fatiguée et en plein doute. Tendez l'oreille car l'extrait sonore est assez réaliste. On entend le souffle de Raphaël Rousseau et en arrière-fond, les bruits de la ville aussi.
Je dors pas, quoi, donc ça arrange rien. Là, c'est ma première demain et j'ai pas dormi encore une fois. J'ai dû dormir 2 heures, max. Et dans ces cas-là, quand je dors pas, je pense à toi et je me demande si toi aussi tu doutais. Et puis bon, je me dis que si, certainement. Et parfois, je me rendors. Bon, là, cette nuit, en l'occurrence, je me suis pas endormie. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et là, c'est surtout pour ça que je t'appelais. J'étais en répétition là à Pantin et je sais pas si tu savais, mais t'as une rue à ton nom à Pantin. C'est un arrêt de bus ou de tram, je sais plus. Enfin bref. Enfin si, il y a une rue. Il y a une rue. Elle est petite, hein. Mais bon, voilà. Oui, elle est quand même assez improbable, mais enfin, c'est une rue quand même, quoi. Et il y a un arrêt de bus aussi, Delphine Seyrig, enfin. Bref, et quand je suis passée là tout à l'heure, Il y a des gens qui ont recouvert de blanc la plaque. Donc on voit plus le nom, on voit plus que c'est ta rue. Voilà, donc t'avais une rue, t'as plus de rue, voilà, je te le dis.
Ensuite, Raphaël Rousseau entre en scène, comme dans son salon. Elle déplace quelques objets, range un peu et allume 3 bâtonnets d'encens. Un premier tableau consacré à Pôle emploi confirme la tension et raconte toute l'angoisse, la difficulté, le parcours du combattant d'un comédien aujourd'hui qui est affilié au régime du spectacle. Et c'est à ce moment que Delphine Seyrig répond à l'appel. Elle manifeste sa présence. On écoute cette apparition sonore.
Oui.
Delphine ?
Oui.
C'est vous ?
Bah oui.
Mais vous êtes venue ?
Mais oui. Pourquoi ?
Je pensais pas, enfin j'étais en train d'appeler et j'ai pensé à vous et je vous ai appelé. Et...
Oui. Être appelé, c'est un grand mot.
Mais vous êtes une apparition, c'est ça?
Oh, je n'en sais rien du tout. Ça, je n'en sais rien du tout.
C'est grâce à mon hôtel mexicain?
Mais...
À partir de là, il n'y aura plus que Delphine Seyrig et Raphaël Rousseau. Une discussion se noue. Raphaël pose des questions, Delphine répond. Et il est bien sûr beaucoup question du métier de comédienne. On écoute un nouvel extrait où Delphine Seyrig raconte les auditions compliquées, le regard des metteurs en scène.
On est jugé vraiment dans sa chair quand on passe une audition comme ça, exactement comme quand on joue à une générale devant des critiques. D'ailleurs, c'est la même chose. On passe une sorte d'examen, on sait qu'on vous juge de la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur, que c'est vraiment votre chair elle-même qui est en cause. Tout ce que produit votre corps, tout ce que produit votre caractère est jugé froidement et c'est une chose très, très difficile à supporter. Bon, bref, la situation est tout à fait catastrophique.
C'est-à-dire
qu'on va frapper à des portes, on apprend qu'un tel monte telle pièce, alors on se dit, ben, je vais aller voir, peut-être qu'il m'engagera, et puis on y va, et puis il ne vous engage pas parce que vous êtes trop ceci, trop cela, trop grande, trop petite, trop jeune, trop vieille, trop...
Mais à vous, on vous a dit des trucs comme ça?
En audition?
Oui.
Mais naturellement, bien sûr.
Vous l'avez peut-être entendu, le son bouge au cours de l'extrait parce que c'est l'une des belles trouvailles de la mise en scène. La voix de Delphine Seyrig se déplace sur le plateau, parfois moins audible, parfois très distincte, comme un fantôme qui se déplace. Cela s'accompagne d'un jeu d'éclairage qui change en fonction de la voix et finalement, on a l'illusion d'une présence. À un moment donné, j'ai senti la communion des deux femmes dans le dialogue, comme si les deux étaient en scène. C'est très réussi.
Je ne fais pas une grande différence entre une fourmi et moi. Elle va, elle vient et puis recommence. C'est pareil à chaque fois. Toute l'année, son fourbi, sa pitance. Elle va, elle vient. Elle travaille en silence. Elle ne fume ni ne boit. Parcimonie, propreté, prévoyance. Probablement, elle me trouve immense. À supposer qu'elle me voit. Pas une grande différence entre une fourmi et moi. Elle va, elle vient et puis recommence sans très bien savoir pourquoi. Pas de passion, même pas de romance. Elle ne rit pas, ni ne rêve, ni ne pense. Elle fait ce qu'elle doit.
C'était un extrait de la chanson Une fourmi et moi, chantée par Delphine Seyrig, elle-même le sujet de discussion avec DS que tu as pu voir, Isabelle, pendant le festival TNB.
Ouais, et quand elle a écrit ce spectacle, Raphaël Rousseau a travaillé à partir d'archives sonores de Lina, principalement, et d'un matériau qu'elle s'est approprié pour faire entendre la voix de Delphine Seyrig, et c'est donc ces morceaux, ces montages sonores qu'on entend tout au long du spectacle, en tout cas de la première partie du spectacle. J'ai assisté au bord plateau à l'issue du spectacle. Il n'y a pas eu d'interview classique, même si j'ai pu poser des questions. Et une des questions lancées par le public était celle de l'écriture du spectacle. On écoute la réponse de Raphaël Rousseau.
La première partie, donc, c'est de l'écriture, mais en montage. Donc, c'est un cut-up d'archives. Donc, souvent, on me pose la question aussi, vu les natures différentes d'archives, il y a des gens qui ont l'impression que parfois c'est ma voix qui limite et que j'ai fait un petit mélange entre des archives, des vraies archives et... donc c'est que des vraies archives, effectivement, de Lina, dans lesquelles j'ai écouté des heures et des heures et dans lesquelles j'ai découpé le moindre petit, la moindre petite réaction, le moindre petit... Voilà. Et la deuxième partie, quand c'est moi qui la joue, en fait, là, c'est pas du tout des retranscriptions d'archives, c'est réécrit. Mais c'est à partir de mes lectures et de mes imprégnations. Donc, en fait, en soi, en substance, elle a dit tout ça. Mais elle l'a pas forcément dit comme ça, ou elle l'a pas, voilà, pas en ces termes, etc. Mais à force d'écouter des interviews d'elle, j'ai fini par comprendre, en fait, même la construction de sa pensée. Et donc, j'ai recréé un petit peu... une pensée un peu en mouvement comme ça en live quoi, qui se contredit, qui hésite, qui voilà, pour qu'on reste dans le même matériau quoi, mais c'est de la vraie fausse archive.
Raphaël Rousseau parle de deux parties dans cette proposition. La première où l'on entend la voix de Delphine Seyrig sans la voir, mais dans la seconde partie, Raphaël a l'idée un peu folle de convoquer Delphine au plateau. Et là encore, une sorte de magie opère. Raphaël disparaît en voix off et Delphine Seyrig apparaît. Sculptée dans une robe noire à paillettes, talons vertigineux, cheveux blonds platine, Raphaël Rousseau incarne Delphine Seyrig. La comédienne parle comme et parle pour Delphine Seyrig, qui désormais est là avec nous. C'est une métamorphose qui s'est opérée. On écoute un nouvel extrait du spectacle où la voix de Delphine Seyrig est prise en charge par Raphaël Rousseau. Elle évoque la question du choix pour une comédienne.
Vous êtes gonflée avec votre histoire de jouer quelque chose, parce que je vous signale que c'est vous qui jouez à travers moi, là, donc à la bande Delphine Seyrig. Et puis, qu'est-ce que vous voudriez que je joue? Hein? Qu'est-ce que vous voudriez que je joue?
De quoi? Il faut que je choisisse?
Bah oui, je vais pas pouvoir tout faire.
Ah ouais, non, mais je peux pas choisir.
Vous savez, une actrice est faite de choix.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, ok, mais là, c'est pas pareil.
Une actrice est constituée de ses choix comme de ses renoncements.
Oui.
Ah bah...
Non, mais oui.
Ah bah oui, mais si vous voulez être actrice, mon petit, va falloir choisir. Vous savez, c'est moi qui devais jouer le rôle de Romy Schneider dans la piscine, c'est moi que le réalisateur voulait au départ, pas Romy, mais j'ai refusé de traverser la France pour aller faire des essais en maillot de bain à Juin-les-Pins, et voilà, je n'ai pas fait la piscine. Ça a été un choix, un renoncement, et je n'aurais sans doute pas été la même si j'avais dit oui.
Raphaël Rousseau offre une véritable composition. Elle n'est jamais dans l'imitation, elle incarne véritablement une version qu'elle invente de Delphine Seyrig. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'évident dans ce qui se passe. J'ai posé justement la question de la relation à Delphine Seyrig, ce lien fictif, imaginaire. On écoute la réponse de Raphaël Rousseau.
C'est une relation, en fait, que j'ai créée toute seule, hein, par définition, avec elle, qui remonte quand même à il y a bien quelques années. Je l'ai découverte un jour. Je la connaissais un peu sans la connaître. J'avais vu Podane, mais je ne m'étais pas forcément rendu compte que c'était Delphine Seyrig, quoi. Et un jour, je l'ai découverte par une interview. Et ça m'a frappée. Et en même temps, je peux expliquer pour des raisons, avec des raisons rationnelles, pourquoi elle. Et en même temps, c'est un peu comme mon amour, quoi. Je ne saurais pas parfois expliquer pourquoi, d'un coup, c'est elle. Mais je me souviens que ça me... Elle apportait des réponses à un moment où je commençais mes études de théâtre. Enfin, je me lançais un peu dans, bon, je voudrais devenir comédienne. Et je me posais tout un tas de questions auquel elle a apporté des réponses assez précieuses. Et d'un coup, ça a été, je sais pas, un guide, quoi. Je me suis dit, ok, c'est elle. Et ça, elle avait une forme, enfin, elle avait une façon, une intelligence, une façon de parler de son métier qui m'a bouleversée. Et oui, qui me donnait de la force, quoi. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à tout voir, tout lire, tout écouter. Et à développer aussi, du coup, une forme de jeu comme ça, à l'incarner, on va dire. Je voyais Baiser voler et je m'amusais comme une enfant à refaire le monologue de fin. Et je me rendais compte qu'assez naturellement, il y avait quelque chose en moi qui allait vers sa voix. Alors après, je l'ai travaillé à force, mais ce que je veux dire, c'est que dès le départ, il y avait une sorte de familiarité avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais fait un spectacle sur Jeanne Moreau, j'aurais certainement dû vraiment travailler, quoi, à l'écoute et tout. Elle, j'ai l'impression que j'ai pas eu à travailler, que c'était un peu là, et qu'à force de l'écouter et de la côtoyer presque, j'ai atteint cette Delphine que j'ai créée, en fait, hein, qui est vraiment une création, c'est ma version de Delphine Seyrig.
Ce spectacle, au-delà de la discussion avec Delphine Seyrig, raconte aussi, de mon point de vue, la naissance d'une actrice. La jeune femme, stressée du début, change tout au long du spectacle. La Raphaël qui joue Delphine est une comédienne plus affirmée, plus sûre que celle qu'on entend au début dans le message vocal. Bien sûr, elle s'est nourrie de tout cet échange. On écoute à nouveau Raphaël Rousseau sur ce thème de la naissance d'une actrice.
Plus je suis terrienne dans la première partie, et un peu très comme ça, un peu empotée, un peu... Plus ça me permet après de radicaliser la transformation, forcément, pour en arriver finalement à la fin. Et c'est un peu ça, l'histoire de ce spectacle. Au fond, c'est pas tant un spectacle sur Delphine Seyrig ou avec Delphine Seyrig. Pour moi, c'est l'histoire de la naissance d'une actrice à travers une autre. Parce que cette jeune femme qu'on voit au début, elle est pleine de doutes, c'est un peu un avatar de ce qu'on est tous quand on démarre. Et puis, c'est parce qu'elle passe par ce fantôme-là, qu'elle se laisse incarner, qu'elle va finalement se trouver à la fin. Et ce monologue de fin, moi, je ne sais pas si... Ça, c'est ténu, hein, je sais, mais je n'ai pas voulu le rendre hyper explicite. Mais pour moi, je ne suis plus tout à fait moi et je ne suis plus Delphine. Enfin, je ne suis plus cette jeune femme du début, je ne suis plus Delphine. Il y a un mélange des deux... Je suis un peu à la croisée des mondes et c'est le moment où elle dit « Voilà, je voudrais que vous me regardiez, moi. » Et en fait, je ne sais même plus qui est moi, mais c'est cette somme-là, c'est l'addition de tout ça. Et ce spectacle, c'est aussi ça, c'est un peu qui parle quand on est sur un plateau. Qui parle quand je parle sur un plateau et c'est quoi ma voix? Et c'est de la même manière que soit toi-même, ça ne peut rien dire. Moi, je me sens plus moi-même quand je joue Delphine Seyrig que quand je me joue « moi », entre guillemets, au début. Mais largement, je suis 10 fois plus proche de moi alors qu'on n'a rien à voir et que c'est une pure composition. Mais c'est dans le plaisir de l'incarnation que ça vient toucher un endroit profondément de moi-même qui, du coup, c'est là que je suis le plus libre et donc je suis le plus proche de ce que je suis sur un plateau.
Je terminerai cette chronique en revenant sur un élément de la mise en scène qui m'a beaucoup plu. Depuis le début, je parle d'une apparition sonore, d'un fantôme qui se déplace. Et c'était crucial, comment faire apparaître Delphine Seyrig? Par une voix qui se déplace, par une incarnation, mais aussi par tous les effets du son et de la lumière. Et puis il y a un motif musical qu'on croirait sorti de peau d'âne, et la fumée des cigarettes, de l'encens, des fumigènes. Cette fumée souvent présente sur scène qui ajoute à la beauté et l'espèce de magie de ce spectacle. On écoute une dernière fois Raphaël Rousseau qui nous parle de la mise en scène du fantôme dans un univers parfois fantastique.
J'ai essayé de travailler aussi dans ce spectacle quand même toutes les en termes de mise en scène, toutes les déclinaisons du fantôme aussi, quelque part. Ça m'intéressait aussi. Enfin, au fur et à mesure de l'écriture, au départ, j'écrivais un dialogue avec Delphine Seyrig et puis plus j'écrivais, plus je me rendais compte que en fait, j'écrivais un spectacle sur les fantômes. Et que ce qui m'intéressait, c'était aussi qu'on puisse ne pas la connaître, ne pas forcément l'aimer, ne pas... que ce soit pas un spectacle pour les aficionados seulement de Delphine Seyrig et qu'on puisse la découvrir, mais qu'on y trouve aussi son compte si on vient pas chercher un spectacle sur les actrices ou sur Delphine Seyrig elle-même, mais qu'au fond ça parle aussi de notre rapport à nos morts, quoi. Et donc je me perds complètement. Oui, donc, c'est pour ça que c'était un spectacle pour moi sur les fantômes. Et donc, je me suis amusée aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé chercher aussi toutes les déclinaisons du fantôme. Donc, il y a l'écriture au début, enfin, l'écrit, qui est quand même assez présent dans le spectacle, qui est une forme de fantôme, quoi. L'écriture est c'est du fantôme. Évidemment, l'archive sonore, c'est du fantôme. L'incarnation, bien sûr. Mais par exemple, la fumée, c'est aussi une... Dans l'imagerie collective, c'est aussi quelque chose qui rappelle le fantôme. Et donc, d'où ce motif, là, de la fumée qui est très présent. Et je crois que cette image, à la fin, c'était aussi... Ça préparait aussi ce dont je parlais là, sur le moment où, quelque part... l'incarnation nous quitte, quoi. Cette voix, elle sort d'elle. Il y a quelque chose qui s'expire. C'est un peu la mort. C'est un peu. Enfin, c'est pas très très. Je me suis pas dit tiens, je vais raconter la mort. Voilà. Mais j'ai voulu créer ce tableau-là qui moi m'inspirait tout un tas de choses. Une image un peu voilà mortifère ou en même temps de voilà l'âme qui quitte le corps. Et je crois que c'est venu parce que le fly case comme ça a été au centre de la scénographie et que j'aime bien trouver comment chaque accessoire va pouvoir servir jusqu'au bout, quoi. Tout ce qu'on peut faire avec juste cette malle, quoi.
Encore une fois, un beau spectacle, il me semble, Isabelle, que ce discussion avec DS.
Oui, il m'a beaucoup, beaucoup plu, ouais.
Où il n'y a pas eu besoin d'intelligence artificielle, de trucage très, très compliqué, finalement, pour la faire apparaître. Donc, on a vraiment un dialogue entre deux comédiennes.
Voilà, c'est ça. Avec un peu de trucage,
quand
mais...
Quand même, mais pas si compliqué que ça.
Voilà.
Merci beaucoup, on te retrouve dans la prochaine émission Crème de la Crème pour toujours nous donner quelques retours sur des spectacles vus lors du Festival TNB. Allez, un petit teaser comme ça, on parlera de Vincent McCain.
Ouais, et avec.
Et avec lui aussi. À plus tard.
À plus tard.
Tu ne fais pas une grande différence entre une fourmi et moi. À peine si tu soupçonnes mon existence et à peine si tu me vois.
On se retrouve mardi pour une nouvelle émission où on retrouvera la machine à monter le son, les infoconcerts et puis le disque d'or de la semaine, sans oublier la suite des retours sur le festival du TNB par Isabelle. Ciao !